Chapitre 13. De haut vol. Premièrement, les oiseaux, d'après vos discours, sont tant aimés des princes et des rois qui les tiennent en un si grand crédit que les portent sur leurs poings parédis des gens parés en grand équipage. Guillaume Crétin. Même s'il y avait pas mal de choses à redire sur la façon dont j'avais mené mon affaire, au moins j'avais congédié mes guides juste à temps. Je n'avais pas parcouru une demi-lieue depuis le théâtre de notre différend que deux stèles gravées ébauchaient un portail devant moi. Difficile de se méprendre sur les bas-reliefs en forme de crânes édentés. C'était l'entrée du bosquet du desséché. Le paysage ne changeait guère au-delà de ces bornes, mais les averses brouillaient les collines boisées dans de mornes grisailles. Aucune trace d'un château. Je poursuivis ma route en clopinant péniblement. La prudence aurait voulu que je longe la chaussée sous le couvert du sous-bois, mais je me sentais trop mal en point pour me faufiler entre les troncs et les broussailles. J'avais dû suspendre ma besace et mon arbalète à l'épaule gauche, tant mon flanc droit restait sensible. Et même ainsi, le moindre mouvement un peu vif me poinçonnait le poitrail. J'avançais à petits pas, encombré par mon bagage mal réparti, toute la culotte enflammée d'ardillons et d'esquilles. Cerise sur le gâteau, il pleuvait de plus en plus fort et je me les gelais. L'eau traversait mes chausses déchirées, se mêlant au sang pour me détremper le jarret. Je sentais aussi le contre-coup du combat et du péril où je m'étais trouvé, tant et si bien que j'étais parfois secoué par une gentille tremblotte. Alors que mon chemin longeait un coteau assez raide, un marmonnement monocorde se répandit sous la nef des arbres. Distant et caverneux, il sourdait dans la forêt en un lent murmure. Il me fallut quelque temps pour y reconnaître une rumeur d'eau courante. S'agissait-il de la rivière dont m'avait parlé Kéan? Quittant la chaussée, je descendis prudemment à travers la futaie. Par-delà les portiques sauvages, je découvris une onde aux reflets métalliques. S'il s'agissait bien de l'Andoun, j'étais proche du but. Comme je m'étais écarté de la route, je me permis enfin une pause. Il était temps, et on ne peut pas dire que la halte fut réparatrice. Je commençais par me dessaper, frissonnant dans l'humidité des bois, des berges et d'une rincée printanière. Suivit une délicieuse tentative de déboisage. Je me pinçais au sang la paume des mains et la pulpe des doigts pour en extraire des ongles et des dents la plupart des échardes qui s'y étaient logées. Quand mes louches furent grossièrement débroussaillées, il fallut enchaîner par les gambettes. La joyeuse séance d'épilation que ce fut. Pas moyen d'y poser les quenottes. Et même en y mettant les mains, essayez donc de vous arracher des épines du cul en vous contorsionnant avec des côtes froissées. À l'aveuglette, j'enfonçais sans doute autant que j'extrayais. J'étais content de me piquer les paluches sur les fesses parce qu'au moins, les dards offraient des prises. Je rugissais de douleur triomphante lorsque je parvenais à extirper un fétu. Il va sans dire qu'au terme de cette besogne stimulante, j'étais loin d'être complètement défriché. Des années durant, j'allais m'asseoir sur du petit bois de verre. Mais lorsque j'eus essouché ce qui dépassait, je m'attachai à la suite. Je transformai ma chemise en charpie afin de bander mes côtes meurtries et ma joue fendue. La gueule emmaillotée dans une mentonnière avec la rosette nouée sur le crâne, je finis pomponné comme pour le lazaret. Quand il fallut me rhabiller, j'eus un instant d'hésitation. Si mon pourpoint de buffle avait bien supporté la chute, mes jambières étaient en loques. Au fond du paquetage, j'avais certes mon costume de cour, mais le haut de chausse à crevé chatoyant et sa braguette galonnée de brocart m'auraient rendu repérable à 300 toises à la ronde. En plus, une journée de marche dans les bois l'aurait probablement lacéré d'aussi galante façon que mon futal de cheminot. Je me résolus donc à renfiler mes grecs troués. Non content d'avoir mal au cul, je n'aurais pas chaud aux fesses. Au moins, ça parachevait la défroque de gueux. Les berges de la rivière étaient assez accidentées. Je remontai sur la route pour poursuivre ma marche. Avec cette petite forme, je me traînais comme un limaçon. En plus, comme Kéan avait prévu des étapes à cheval, je me dis qu'il était probable que je n'arriverais à destination que le lendemain. En tout cas, malgré la bonne qualité de la chaussée, les parages étaient déserts. Dans un sens, ça me facilitait le voyage. D'un autre côté, il n'y aurait pas des masses de suspects pour le bazar que j'avais laissé derrière moi. Il faut bien convenir que la région n'était guère attrayante. Plus je m'enfonçais dans le bosquet de verre, plus les arbres devenaient grands et sombres. Cependant, il ne s'agissait pas de ces hautes futaies qui auraient pu fournir le bois de construction de nos navires. Je ne découvrais qu'un enchevêtrement de troncs noueux ou doubles, de branches torses et de têtes de cerf. Un printemps maladif couvrait par endroits la ramée de feuillage, mais nombre de ramures se trouvaient étouffées par la constriction des clématites, tandis que le sommet des houppiers dressait des griffes écorcées. Ici ou là, un bosquet de sapins à demi ébranché retenait une poche de nuit dans la pénombre générale. Une odeur fade de champignons et de feuilles pourries stagnait sur les voies forestières. Bien qu'elle fût hors de vue, j'entendais toujours le murmure de la rivière qui coulait au fond des taillis. Comme je me hissais péniblement au sommet d'une côte, une échappée me confirma que je toucherais au but plus tôt que je ne l'avais cru. Par-delà le moutonnement des collines, assez loin sur l'horizon, j'aperçus l'élancement grisâtre d'une grande bâtisse. Dans cette nature morne, le château se dressait renfrogné et solitaire. Par temps pluvieux, à une telle distance, on n'en distinguait pas grand-chose. Tout au plus, sa silhouette avait-elle quelque chose de biscornu et d'inachevé. La place forte me parut puissante, mais moins impressionnante que ce que m'en avait raconté Kéan. En redescendant dans un vallon, le chemin me déroba assez vite ce premier aperçu. Autour de moi, les bois prenaient insensiblement une tournure funèbre. De temps à autre, une chaîne suspendue à des bornes délimitait un boqueteau touffu. À l'ombre de frênes lépreux, quelques dalles gravées d'épitaphes s'abîmaient dans l'humus et les feuilles mortes. L'angle d'un caveau moussu émergeait parfois des frondaisons. De loin en loin, la route croisait des allées parfaitement percées, dont le gravier avait été ratissé avec soin. Ce jardinage funéraire suffit à me mettre sur le qui-vive. Il y avait du calotin dans les parages, et je ne tenais pas spécialement à croiser ces ensoutanés-là. Dans mon état et avec les corps que j'avais confiés aux bons soins de ceux qui passeraient derrière, j'étais assuré que les dessicatoriens feraient deux et deux. Je redoublais donc de précautions. Le pied léger en dépit de la lassitude et des douleurs, un œil en avant et l'autre en arrière, prêt à me rembucher à la moindre alerte. Et pourtant, pas âme qui vive sur la route, qui s'étirait interminablement de val en combe et de cluse en ravine. Une paix mortelle pesait sur ces bois sombres. Quoi d'étonnant dans une nécropole? Cela faisait plutôt mon affaire, mais cela ne me rassurait guère. Je m'attendais à tout moment à tomber sur une procession de fossoyeurs en grand habit de ténèbres, et cela me chiffonnait d'autant plus que j'avais bien failli être leur prochain client. Concentré sur les moindres tours et détours du chemin, épiant ce qui pouvait se mouvoir au fond des sentes transversales, j'avais poursuivi ma marche sans plus accorder d'attention à l'horizon. Le couvert forestier, du reste, ne le dévoilait que rarement. Aussi, arrivé en fin d'après-midi, le spectacle que me découvrit une trouée me fit un choc. Au sortir d'un virage, la voie se trouvait bordée par un boqueteau d'arbres morts. Leurs branches nues ne suffisaient plus à boucher la vue. À travers cette ramée osseuse, une folie architecturale me frappa de vertige. Malgré ces dos d'âne, la route courait avec constance à mi-coteau. La rivière, en revanche, avait creusé une vallée de plus en plus profonde et la rumeur de l'onde ne me parvenait plus qu'à peine. Elle s'enroulait dans un amphithéâtre profond et obscur où les pignons et les dômes des chapelles funéraires crevaient ça et là les frondaisons. Au plus profond de ce val, loin au-dessous de mon coin de chaussée, s'enracinait le château de verre. Les piles de ses ponts et les fondations de ses remparts, comme noircies par l'humidité, paraissaient plongées dans le flot sombre. Puis s'élevait une éruption livide de tours, de tourelles et d'échauguettes, dont les premières poivrières restaient en contrebas de ma position, mais dont les clochetons, plateformes et postes de guet les plus aériens culminaient au-dessus de la colline qui me dominait. J'avais pourtant l'habitude de la démesure des palais patriciens de Tchoudalia, dans le quartier de Torresella, mais la place forte que je découvrais là, perdue au milieu de son parc funèbre, défiait le regard et les lois de l'équilibre. Je compris que, de loin, elle m'avait paru commune parce que je n'en avais entrevu que le fait que j'avais pris pour un château de colline. En fait, sa situation insulaire en faisait une forteresse de vallée, presque une place de ravin. Et pourtant, ses bâtisseurs l'avaient haussée de murailles en remparts, de bastions en tours, de machicoulis en bretèches, de passerelles en arc-boutant, de flèches en pinacle, jusqu'à ce qu'elles surplombent tout le paysage à la ronde. Le plus déroutant dans ce jaillissement castral, c'est que la citadelle paraissait encore en chantier. Sur ses cimes maçonnées, on voyait s'enrouler des escaliers sans issue, des fenêtres donnant sur le ciel, des voûtes brisées qu'accrochait parfois la traîne d'un nuage. C'est peu de dire que la bicoque m'emboucha un coin. Sans la mentonnière, j'en aurais gobé les mouches. Tout ce que m'avait raconté Kéan se révélait finalement en dessous de la vérité. Je mis le frisson qui me saisit sur le compte de la pluie et du froid. Entrer dans cette folie de pierre, y transmettre les civilités de Clarissima et espérer en ressortir vivant, aurait relevé de la démence pure et simple. Car cet empilement vertigineux d'ouvrages, de fortifications et de donjons possédait une abondante garnison. Ses nombreuses cheminées soufflaient des rubans de fumée. Les ordures jetées du haut des latrines souillaient les murailles de leurs traînées. De minuscules couvreurs à califourchons sur des charpentes réparaient le toit d'une bretèche. Ici ou là, sur les chemins de ronde, déambulait le fer d'une lance ou d'une guisarme. Les échos caverneux d'aboiements ou de hennissements échappaient parfois à l'enceinte. D'autres fois, c'étaient les appels des sentinelles ou des ouvriers. Ces éclats résonnaient de façon incongrue dans le silence de la vallée. Au pied du château, et sur le flanc boisé des collines, sommeillait une véritable ville, pétrifiée dans une quiétude sépulcrale. Le fouillis forestier était percé de frontons, de coupoles et de faîtages, comme autant de champignons monumentaux ayant poussé jusqu'à la canopée. Et à tout prendre, ce pullulement funéraire était bien le fruit d'une germination infernale. Caveaux et sépulcres avaient cru depuis le sous-sol de la forêt. La pierre qui les constituait était extraite de carrières souterraines. Les excavations, consacrées catacombes, se trouvaient ensuite envahies par les morts. La cité s'élevait donc à proportion que s'y enfouissaient les défunts. Un coin charmant pour monter une embuscade. Au moins, ce n'étaient pas les planques qui manquaient. Il faudrait juste éviter de se faire pincer la main dans le sarcophage par la prêtraille locale. Une fois que j'eus digéré le gigantisme de la gentilhommière, je partis en repérage. Pour commencer, j'avais besoin de dénicher un affût commode, c'est-à-dire à peu près en face des portes du château, ni trop près, pas question de me faire loger par les guetteurs, ni trop loin. Quand la Bréhaigne se risquerait dehors, je devrais lui emboîter rapidement le pas. Il me fallut encore traîner la jambe quelque temps avant d'arriver à proximité du rempart. Un crépuscule pesant obscurcissait les sous-bois et les allées de la nécropole. La forteresse projetait une ombre gigantesque sur les versants orientaux de la vallée. Plus bas, un grondement caverneux montait de la rivière, là où le flot s'abîmait dans un gouffre. Autour de moi, des figures livides se détachaient vaguement dans la noirceur des porches et des ombrages. De nombreuses statues montaient la garde sur le seuil des sépulcres et des chapelles. J'entrepris d'aller demander le gîte en catimini chez l'habitant. Inutile d'aller cogner aux huis, Je comptais me loger à l'œil chez des hôtes qui ne se formaliseraient guère de mon intrusion. Évidemment, le patelin n'avait rien d'hospitalier. Les portes des tombeaux se renfrognaient, massives et closes, mais je ne m'inquiétais pas trop de ces obstacles. La plupart étaient fermées à clé. Or, voyageur prévoyant, j'avais mes rossignols au fond de l'aumônière. Je doutais que ces grosses serrures résistent longtemps à mes petits crochets. Dans le jour qui baissait, je fis donc le tour du quartier en veillant à rester à couvert. J'avais l'embarras du choix dans un secteur qui ne manquait pas de cachets, bien qu'il ne fût pas très animé. Parc arboré, vue sur le château et tombeau de maître, voisinage très tranquille et trié sur le volet. J'aurais pu tomber sur pire. Je furetais autour de plusieurs grands édifices où je pressentais des opportunités à saisir en matière de crypte. Un vaste mausolée semi-enterré me tenta particulièrement. Dissimulé par une couronne de cyprès, il fallait descendre un escalier en pente douce pour en atteindre le seuil. Le porche était magnifiquement sculpté, quoique le sujet fût d'un goût un peu convenu, deux écorchés soutenant un cercueil. L'un des battants de bronze s'entrebâillait même sur un noir de four, comme une invite. À regret, je passai mon chemin. Ce porche entrouvert me laissait craindre de n'être pas le seul invité de passage. Et puis, cet hôtel enfoui se trouvait mal situé. Depuis son pas de porte, on ne pouvait voir les ponts qui desservaient le château. Finalement, je trouvai mon bonheur plus haut sur les collines, dans un carré moins rupin, mais idéal pour le guet. Un petit édicule bordé de haies de buis surplombait la rivière. Son entrée regardait droit vers le châtelet qui commandait l'accès de Vers. Certes, la porte se fit un peu prier, mais je m'y connais pour tripoter des gorges, et la serrure, bonne fille, finit par avaler son peine. Le battant s'ouvrit avec un grincement sur une espèce de corridor obscur. On y voyait goutte dans cette tôle. Cela sentait juste la vieille pierre et le renfermer. Je jugeais plus prudent de ne pas allumer de feu. Le lendemain, au grand jour, je serais sans doute en mesure de mieux découvrir la boutique. Accroupeton juste derrière l'entrebâillement de la porte, j'avais encore le séant trop cuisant pour m'asseoir, je cassai la croûte tout en gardant un œil sur les fortifications démesurées de Vers. Peu à peu englouti par la nuit, le château imposait toujours sa présence massive dans l'obscurité. Dans quelques tours, la lumière des salles de garde filtrait par les archères. La lueur errante d'une lanterne clignotait derrière les merlons du chemin de ronde. Lorsqu'une éclaircie déchirait les nuages, la lune paraissait s'accrocher dans les girouettes et baignait les toits d'ardoise de reflets mouillés. Je dois bien avouer que je l'avais mauvaise. J'enviais en particulier les âtres auxquels devaient se réchauffer les gens de guerre. Sans parler de ma chair qui était assez maigre. Quand je lui avais fendu le crâne, la brave Amiette s'était vengée en s'écroulant sur mon sac. Elle avait aplati les provisions que j'y avais serrées. De ma miche de pain, il ne restait qu'une poudre de miettes éparpillée dans les plis et replis de la besace et de mes frusques. Le fromage écrabouillé en avait fait sa chapelure, mais c'était aussi incrusté dans l'étoffe de mon costume de cour. Les petits pâtés en bouillie tartinaient l'ensemble. Seul mon morceau de lard avait conservé une forme vaguement reconnaissable. À l'aveuglette, je picorais du bout des doigts cette triste bectance. Juste de quoi tromper la faim. Si mon affût s'éternisait, j'avais intérêt à me rationner. Épuisé par la journée que je venais de traverser, et malgré le confort très discutable de la literie, je ne tardais pas à piquer du nez. Au beau milieu de la nuit, je fus tiré du sommeil par un accès d'inquiétude. Dans mon caveau, il régnait un noir de poids, et ouvrir la porte me permit à peine d'en deviner le cadre. Le petit somme à la dure, sur des dalles glacées, me laissait ankylosé et gourd. Un instant, je ne fus pas certain d'être réveillé, mais l'élancement à travers mes côtes provoqué par un mouvement dissipa brutalement mon hébétude. Toutefois, ce n'était ni le froid ni la douleur qui m'avaient alerté. Dehors, l'obscurité retentissait d'une puissante cacophonie. Les chiens du château hurlaient. Plus tôt dans la soirée, je les avais entendus donner de la voix. Même si leurs aboiements roulaient un peu sinistres au fond des enceintes, ce n'étaient que les cris ordinaires de clabots qui s'ennuient, se répondent ou avertissent. Mais aux heures les plus sombres de la nuit, leurs chansons modulaient un air autrement lugubre. Ils hurlaient tous en chœur une plainte infinie et glaçante, où s'entrelaçaient ululements, pleurnicheries et glapissements. Ces lamentations résonnaient dans les hauts murs de la forteresse comme dans des orgues de pierre. Les vôtres, toutefois, ne fournissaient que la moitié de la chorale. Les centaines de freuses et de corneilles qui nichaient sur les toits leur donnaient la réplique dans un assourdissant tumulte de craillements. L'horrible charivari des oiseaux vibrait lui aussi de je ne sais quel affolement collectif. C'était à croire que Corbax et Cabot s'étaient lancés dans un concours panique à qui vociférerait le plus fort et le plus faux. L'immense auge formé par la vallée autour du château retentissait de ce tintamarre nocturne. À moins d'être sourd comme un pot, il devait être impossible de fermer l'œil à l'intérieur de la forteresse. En tout cas, j'en fus incapable tant que fut donnée la sérénade. Et pour durer, elle dura. Pendant des heures, la nécropole de verre fut accablée par ce tohu-bohu, insupportable et geignard, qui s'époumonait tel un cœur d'âme en peine. Il fallut attendre le petit coup de froid qui annonçait l'aube pour que, graduellement, ces sales bêtes s'enrouent. Non seulement j'étais claqué, mais j'avais la tête comme une coucourde. En deux mots, je n'étais pas vraiment frais pour monter mon affût. D'ailleurs, je m'y pris assez mal. Ayant essayé de trouver un peu de repos quand le calme fut revenu, je ne me réveillais finalement qu'au milieu de la matinée. Décidément, ça commençait fort. Au moins, grâce à la lumière du jour délivrée par le seuil, je pus découvrir un peu mieux l'intérieur de mon refuge. Certes, des bas-reliefs assez modestes ornaient les chambranles de la pièce d'un blason et de symboles dessicatoriens. Mais l'endroit ne s'avéra être ni une chapelle, ni un sépulcre. Il s'agissait d'un simple vestibule qui donnait sur une seconde porte dans le fond de l'édicule. Par acquis de conscience, j'allais la crocheter. Elle ouvrait sur un escalier étroit et raide qui s'enfonçait dans la colline. Je ne poussais pas plus avant mon exploration. Les propriétaires devaient manquer de conversation et je réservais mon compliment à quelqu'un d'autre. Je repris donc ma faction dans l'entrée, l'œil collé à l'entrebâillement. Le château bouchait mes perspectives, encore plus écrasant que la veille, me parut-il. Dans la journée, il en provenait les rumeurs d'une animation assez banale. De temps en temps, il y avait des allées et venues avec l'extérieur. Mon poste d'observation me permettait de ne rien perdre de ces passages par le châtelet d'entrée. Quelques charrettes livrèrent du fourrage et des tonneaux. Des rustres firent également entrer un troupeau de porcs, ce qui laissait croire que le seigneur de Verre remplissait ses réserves en prévision d'un siège. Des cavaliers isolés se présentaient parfois aux portes ou en ressortaient dans un balai qui sentait la correspondance de crise. Deux bandes montées gagnèrent aussi la forteresse. Le premier groupe qui se présenta aux portes vers midi ne comportait qu'une poignée de voyageurs. Parmi eux se trouvait un chevalier dont le blason, une poignée de main sur fond noir, me disait quelque chose. Il avait fait partie des compagnons de Blancandin dès le premier jour du tournoi. Ces gaillards amenaient de nombreux chevaux, parmi lesquels je reconnus les destriers de Kéan. Le double assassinat était donc découvert. Fâcheux développement, je craignis que les occupants du castel ne redoublent de précautions et n'envoient des patrouilles ratisser le voisinage. En début d'après-midi, ce fut un autre cavalier qui déboula des bois à franc étrier. Il fut accueilli avec des démonstrations de joie par le piquet de garde avant de franchir les deux ponts. Peu après, Tout le château entrait en effervescence, comme si on avait sonné le branle-bas. Moins d'une heure plus tard, apparaissait la deuxième bande, nettement plus nombreuse que la première, forte peut-être d'une quinzaine de gens de guerre. Elle escortait deux voyageuses. Inutile de dire que ma curiosité en fut piquée. Malheureusement, si j'étais bien placé pour surveiller les portes, je me trouvais trop loin pour distinguer des détails. À en juger d'après la richesse de leur mise, les deux rombières n'appartenaient pas au menu fretin. Elles montaient de surcroît de jolies acnées qui devaient valoir leur pesant de florins. Mais je ne pus en découvrir davantage. En revanche, lorsque les nouvelles venues eurent franchi la deuxième porte en compagnie de leur escorte, tout le château se mit à retentir de clameurs et de vivats. Cela me mit la puce à l'oreille. Finalement, la Brégor avait sans doute vu juste, et je tenais probablement ma cliente. Évidemment, tenir relevait d'une interprétation très optimiste de la situation. D'abord, rien ne m'assurait que l'ex-ducale venait de débarquer. Ensuite, si elle nous honorait bien de sa présence, elle se trouvait dedans et moi dehors. Pour peu que je me sois trompé sur sa passion pour la volerie, j'aurais tout le loisir de moisir en compagnie de mes défunts hôtes avant de saisir une chance de lui tirer mon carreau. Enfin, il faudrait aussi que j'adresse la politesse à la bonne destinataire. Car le hic, c'est que je ne savais pas à quoi ressemblait la dame. Je dois admettre que la question ne me tarabustait pas trop. Puisque ses partisans la considéraient toujours comme la duchesse en titre, ce serait probablement un dragon d'âge mûr à qui seraient réservés les plus grands égards. Cependant, on ne pouvait exclure que la grande dame fût une rouée adepte des déguisements, un peu comme le podestat quand il se déplaçait en ville incognito. Dans ce cas, si la futée échangeait sa toilette avec une dame de compagnie, la bévue demeurait possible. Par acquis de conscience, restait la possibilité de tirer tout ce qui portait le jupon. Mais l'arbalète n'était pas une arme idéale pour les tarifs de groupe. En ce premier jour d'affût, j'eus tout le temps de tourner et retourner la question. Je ne relâchais pas ma vigilance pour autant, même quand tout était calme à l'entrée. Je m'appliquais à repérer les postes de guet sur les tours et les heures de relève. Au cas où une tribulation imprévue m'aurait mené dans ces murs, j'en étudiais la disposition et tâchais de dénicher les points faibles ou les voies de retraite. Sur ce plan, le château de verre s'ingéniait à me décourager. Chemin de ronde et encorbellement dominait de si haut un flot si tumultueux qu'il y avait de quoi se tuer deux ou trois fois en sautant du rempart. D'abord en se rompant le cou, puis en se noyant dans les tourbillons, enfin en se rompant le cou une deuxième fois si les rapides vous précipitaient dans le gouffre. Quantité de choses paraissaient biscornues, bizarres ou tarabiscotées dans l'ordonnance monumentale des lieux. Un peu au-dessus de l'endroit où le fondement des murs passait d'un schiste noirâtre au tuffeau cadavéreux, se déployait une immense frise qui épousait tous les recoins de l'enceinte. Usée par les siècles, cette décoration était si mutilée que son sujet en était devenu largement mystérieux. Par endroits, des fragments mieux conservés semblaient représenter une farandole. Beaucoup plus haut, au-dessus des galeries du chemin de ronde, se dressaient les ailes de ce qui était probablement l'hôtel noble. Comme l'enceinte, il paraissait avoir aggloméré plusieurs tours. Cela ressemblait à la façade d'un palais vertigineux, étançonné sans symétrie par la panse d'un donjon et les arrondis de tourelles. Le mur s'y aérait d'une dentelle de fenêtres, géminées ou à meneaux, disséminées sans grand ordre et comme enchâssées dans un foisonnement de sculptures. Plus haut encore, les grands toits à pans raides et à faîtage ferronnier se trouvaient écrasés par un nouveau jaillissement de pierre. De cette architecture palatiale naissait un rejet castral, comme si l'on avait empilé un deuxième château inachevé sur le premier. Là-haut, l'architecture devenait insensée. On peinait à y distinguer un amoncellement de tourelles, de pinacles, de clochetons, de balcons et bretèches, maintenus dans un équilibre improbable par un fouillis d'arcs-boutants. C'était à croire que cette folie avait été confiée à des bâtisseurs rivaux qui ne s'étaient mis d'accord sur rien, pas même sur la fonction de l'édifice qu'ils construisaient. Certains arcs de pierre lancés dans le vide servaient de passerelles ou d'escaliers de jonction entre les tours à une altitude invraisemblable. Ils se trouvaient gardés par de grandes statues de prélats et de chevaliers que les oiseaux avaient généreusement conchiés. À force de scruter cette gigantesque pièce montée, les ombres portées par le passage du soleil et les allées et venues des sentinelles me permirent de mieux cerner son organisation générale. Comme me l'avait dit Kéan, Vert était effectivement construit sur trois îles. Le châtelet d'entrée occupait la première, relié à la rive par un pont assez large. Ce bastion donnait accès à la place par un second pont en dos d'âne, plus élancé et plus étroit. Mais le château, à proprement parler, était en fait composé par deux fortifications distinctes, coupées par un étroit bras de rivière. Cette douve formait une sorte de défilé entre les murailles, qui ne communiquait qu'à hauteur des chemins de ronde par des passerelles ménagées sur des arcs boutants. Plus je considérais cette forteresse, plus je me félicitais de n'y avoir pas mis les pieds. Tout y sentait le dédale, l'embûche, la culbute et l'oubliette. Je risquais certes de trouver le temps long à attendre la bonne occasion en joyeuse compagnie, mais ma planque dans un sépulcre sentait moins la mort que cette citadelle hétéroclite. Ma seconde nuit au tombeau fut différente de la première. Toute la façade de l'hôtel noble brillait dans l'obscurité. Derrière les fenêtres à petits croisillons brûlaient des myriades de chandelles. De temps en temps me parvenaient des rumeurs de musique, des éclats de rire, des exclamations ravies, tout un brouhaha de fêtes classieuses. La rivière, comme étonnée par cette liesse, avait mis une sourdine à ses grondements. Quant à la nécropole, elle se murait dans son manteau de ténèbres avec un silence glacial. Au moins, à part les éclats lointains d'une sauterie où j'aurais probablement déparé, j'étais au calme. Je pus dormir tout mon soûl. Au matin, je fus réveillé par une chanson liquide. Il pleuvait. Il flottait même assez fort, au point de voiler en grande partie la place forte et ses abords. Je grignotais quelques restes rancis, en attendant que ça se calme. Mais les cieux étaient d'humeur chagrine et continuèrent à balayer les bois, les caveaux et les fortifications d'averses opiniâtres. Comme je me trouvais assez loin de l'entrée du château, je ne distinguais guère ce qui s'y passait. Cependant, je ne m'en inquiétais pas outre mesure. La grande dame ne risquait pas de partir à la chasse sous des trompes d'eau. En fait, comme les nuées roulaient maussades et la visibilité restait médiocre, j'en profitais pour sortir de mon trou. Tout en maudissant ce sale temps, je me livrais à une reconnaissance en règle du secteur. Il me fallait avoir une connaissance assez précise des allées et contre-allées, des chapelles et des monuments, des cachettes et des raccourcis pour me faufiler vif et furtif quand viendrait l'heure de braconner la chasseresse. Je passais l'essentiel de ma matinée dans ces furetages. Vers le milieu de la journée, je commençais à me faire une idée assez précise du terrain. Trempé comme une soupe, je m'octroyais donc une petite pause sous le péristyle d'un mausolée. J'étais occupé à tordre un coin de ma casaque quand j'entendis des voix. Non pas les rumeurs lointaines tombées des murs du château, mais des timbres plus proches, mêlés au ruissellement morne de l'averse. Je me fondis aussitôt dans l'ombre d'un pilier, sculpté à l'effigie d'un prêtre en grand habit funèbre. Tôt ou tard, il fallait bien que je tombe sur les occupants. Je trouvais juste bizarre que la première rencontre ait lieu précisément quand il tombait des cordes. La conversation, entrecoupée de silence, remontait l'allée qui longeait mon refuge. Je me collais contre le plissé de pierre, impavide comme la statue. Bientôt, j'entendis le clapotement de plusieurs foulées qui accompagnaient à la discussion. Des silhouettes encore brouillées remontaient tranquillement le chemin. Des dessicatoriens? Il n'avait pas l'air de porter la robe, mais avait posé sur l'échine ce qui ressemblait à des armes ou des outils. De simples rustres chargés de l'entretien? Des sergents en patrouille? Les mots qui me parvenaient à présent, quoique distincts, demeuraient incompréhensibles. Ces gaillards-là ne parlaient pas en léonien. Et puis, au moment où je commençais à distinguer sans hésitation possible des armes, je reconnus cet accent guttural. Mes causeurs grognaient dans un dialecte ouroman. Peu après, le doute ne me fut plus permis. Émergeant des rideaux de pluie, je vis trois guerriers des clans approcher de mon abri. De vrais carles, à la dégaine de brute, la nuque rasée et le museau hirsute, puissamment bâtis et grossièrement attifés. Les broignes primitives que portait un duo et la brigandine un peu plus élaborée du troisième, pas plus que les longues haches d'infanterie ou la clémore qu'ils faisaient reposer sur l'épaule, ne laissaient planer le moindre doute sur leur statut. Chacun d'entre eux me rendait une bonne tête, et on aurait pu mettre deux bons hommes comme moi dans leur cuirasse. Qui étaient ces énergumènes? Mercenaires? Envahisseurs? Ou plus probablement un peu des deux? Appartenait-il aux bandes de Fitzganon? Préparait-il un coup de main du seigneur Douchin contre son demi-frère? Ou s'agissait-il d'éclaireurs Hartclyde venus tâter le terrain? Plus qu'à croiser les doigts pour que ce ne soit pas une avant-garde. Car en cas de siège, ce contrat déjà compliqué deviendrait horriblement durail. Je n'eus pas vraiment le temps d'épiloguer sur la question, parce que les trois primates me collèrent une jolie frousse. Tout en marchant, ils avaient repéré le grand sépulcre où je m'étais tapis et surtout son portique. Aussi rincé que moi, l'un d'eux fit un écart pour rejoindre mon abri. Il se trouvait juste à deux pas de mon pilier quand les autres râlèrent. Les trois costauds échangèrent alors une engueulade sur un ton si féroce que je crus qu'ils allaient s'entretuer. Et puis, celui qui avait failli me tenir compagnie tourna les talons et rejoignit ses comparses en maugréant. Ils passèrent leur chemin, le carle à la brigandine se retournant de temps en temps pour vérifier que rien ne venait du château. Ils finirent par se fondre dans l'averse en remontant vers le haut des collines. D'abord, je soufflais un bon coup. Encore un peu, et je m'offrais un drôle de petit impromptu. Peut-être qu'on se serait serrés tous les quatre en échangeant des politesses sous notre coin de porte, mais quelque chose me disait que la conversation aurait rapidement pris un tour déplaisant. J'étais donc bien content de m'en être tiré à si bon compte. Mais pour combien de temps? Si ce trio maraudait juste en quête de mauvais coups, j'étais à peu près tranquille. Ce n'était pas à 3, à 10, ni même à 100 lascars que des pillards se frotteraient au château de Verre. Mais s'il s'agissait des enfants perdus d'une armée aussi puissante que celle qui avait pris Kelsbruck 10 ans plus tôt, alors là, je serais bientôt dans mes petits souliers. À coup sûr, la horde prendrait ses aises dans les tombeaux. J'aurais l'air fin au milieu de 10 000 barbares. Il fallait savoir sur quel pied danser. Laisser filer mes trois promeneurs sans me soucier de la visite aurait été une dangereuse inconséquence. Ces pèlerins-là annonçaient peut-être une sacrée procession. Alors, après leur avoir concédé une petite avance, je quittai mon abri et je me faufilai sur leurs traces. Je pressai d'abord un peu le pas jusqu'à entrevoir du mouvement sous la pluie. Puis, rasant les haies et les monuments funèbres, je les filochai à distance respectable. Je dus m'arrêter 2 ou 3 fois. Ces braves gens allaient parfois secouer les portails des chapelles les plus fastueuses. Manifestement, ils auraient bien emporté quelques souvenirs, à moins qu'ils n'aient voulu se loger à la même enseigne que moi. Mais ils n'étaient outillés que de haches. Les battants de bois à grosses pentures et les vantaux de bronze risquaient de les ébrécher. Alors, tout en bougonnant, les plantigrades repartaient. Ils finirent par quitter les quartiers les plus denses de la nécropole pour regagner le sommet des collines. Coupant la route pavée que j'avais suivie, ils s'enfoncèrent dans des futaies épaisses couvertes d'ifs, de pins et même de quelques cèdres. La pluie ne tombait plus qu'en gouttières éparses sous cette ramée sombre. Une épaisse couche d'aiguilles amortissait le pas, et je pus me rapprocher un peu des brutes dans le plus parfait silence. Ils me menèrent à un vallon boisé dont la pénombre était percée par une lueur chaude. Un petit feu de camp, entretenu par deux autres carles, dansait sans émettre de fumée. Mes trois clients se débarrassèrent de leurs armes et s'affalèrent en soupirant d'aise autour du foyer. Ils réchauffèrent leurs grosses pattes au-dessus des flammes. Planqué derrière un tronc rongé de champignons, je leur enviais furieusement ce luxe. Le bon côté des choses, c'était de n'avoir affaire qu'à une poignée de rôdeurs. Voilà qui avait de quoi rassurer, temporairement du moins. Simple pillard ou éclaireur. En tout cas, aucun signe d'une grosse troupe. Au pire, je pouvais encore parier sur 2 ou 3 jours de calme. Ne me restait plus qu'à espérer avoir été le seul type civilisé à tomber sur ces vagabonds. Si la hôte qui fréquentait le château apprenait que des ouromans prenaient le frais dans la vallée, je pouvais faire une croix sur ma partie de chasse. Je décampais sans bruit rejoindre mon terrier. J'y grelottais derrière mon seuil entrouvert, rêvant d'allumer un bon feu, mais craignant trop de me trahir. Je tuais le temps en aiguisant mes lames, en vérifiant les câbles de rechange de l'arbalète et en huilant la crémaillère. Je tendais régulièrement l'oreille, au cas où les barbares seraient revenus flâner dans les environs. Je ne me sentais pas très à l'aise de les avoir pour voisins. Mais d'un autre côté, ils me donnaient des idées. Être au parfum de leur car ajoutait une brème dans ma manche. Avec un petit coup de bluff, cela pourrait se révéler utile. La nuit suivante, je fus tiré du sommeil par un lugubre vacarme. Toute la vallée retentissait à nouveau d'une cacophonie animalière. Aux lamentations des chiens et aux criaillements des corneilles, s'ajoutait même, à peine étouffé par le rempart, un concert de hennissements. Ravissante sérénade. Je l'accueillis avec les délices qu'on imagine, surtout si les bestioles décidaient de se remettre à vocaliser jusqu'à l'aube. Cependant, j'éprouvais presque plus de malaise que de mauvaise humeur. Qu'est-ce qui pouvait pousser toute cette faune à chanter aussi faux? Pas très loin de minuit, gourde froid dans l'antichambre d'un caveau, la ritournelle avait de quoi vous donner les grelots. Faute de mieux, j'entrepris de refermer la porte du sépulcre que j'avais laissé entrebâillée par précaution. J'avais déjà la main sur le battant quand un nouveau bruit très discret et même presque inaudible au milieu du charivari animal me colla la chair de poule. Dans les ténèbres de l'allée, quelque chose crissait faiblement. Je crus d'abord avoir rêvé, car le frottement se tut presque aussitôt. Et puis, au moment où j'allais refermer en me traitant d'imbécile, je perçus à nouveau une sorte de grincement, accompagné de petits cliquettements. C'était un son à la fois clair et presque doux, qui me crispa pourtant comme si on m'avait passé les dents à la paille de fer. Mon cœur se mit à battre la chamade, de façon inexplicable. Je me figeais sur place, sans repousser complètement la porte, de crainte de faire du bruit. Dans le château, la chiennerie hurlait à la mort et les freux se déchaînaient. Le tapage était tel qu'il couvrait par moments le bruissement. Une rumeur de reptation qui, par à coup, semblait remonter l'allée. L'œil fixé dans l'entrebâillement, j'essayais frénétiquement de percer l'obscurité. C'était à peine si je percevais, se détachant sur le ciel nocturne, la stature menaçante des arbres et le contour sévère des monuments. Le frôlement continuait à s'approcher par saccades. Il me parvenait de derrière la haie de buis qui entourait mon repère. Il ne tarderait pas à arriver sur le pas de ma porte. En fait, on aurait cru qu'on traînait quelque chose sur le gravier, quelque chose d'inerte, comme un cadavre, si lourd qu'il fallait faire des pauses avant de se remettre à la tâche. Finalement, j'entrevis du mouvement au bas du perron qui descendait de mon repère. Ce fut d'abord une forme noire qui se détachait vaguement sur la pierre moins sombre des monuments d'en face. La chose se déplaçait lentement, d'une démarche lasse, assortie de pauses. À deux ou trois pas de distance, elle était suivie par une deuxième ombre qui longeait plutôt l'autre bordure de la voie. Les deux silhouettes, couvertes de houppelandes obscures, paraissaient noyées dans un épais halo de nuit. Voûtée et poussive, elle n'avait rien à voir avec les ouromans. Elle s'agitait mollement, à chaque station, avec des gestes de balayeur. C'était alors que retentissait un crissement de gravier. De façon très farfelue, ces rôdeurs nocturnes étaient occupés à ratisser l'allée. Et pourtant, cette besogne paisible n'avait rien de rassurant. Le deuxième jardinier avait du mal à tenir fermement son outil. Un de ses bras, amorphe, lâchait parfois le manche, ce qui l'amenait à rateler de travers. Le premier des deux traînards avait presque dépassé mon caveau quand il fit une pause plus longue que les autres. J'eus le sentiment très inconfortable que son capuchon flasque s'était tourné vers moi. Sentiment presque panique lorsqu'il obliqua dans ma direction. J'eus un mouvement de recul en portant la main à la dague. Le manche glissa tant ma paume se faisait moite. Juste de l'autre côté de la porte, j'entendis l'intrus se hisser à petits pas sur le perron, marche par marche. Son râteau tintait sur chaque degré comme s'il le traînait derrière lui. Soudain, par l'ouverture entrebâillée, me parvint un relent affreusement fétide, tandis que l'anneau qui faisait office de poignée de porte émettait un faible cliquetis. Et puis, le ventail fut doucement tiré et se referma, presque sans bruit, me plongeant dans un noir de poids. À travers le battant, j'entendis la démarche sénile redescendre le perron, accompagnée par le carillon du râteau sur la pierre. Les crissements de gravier reprirent presque synchrone et s'éloignèrent lentement. Je restai un long moment, le souffle court, sans oser bouger dans mon réduit ténébreux. Je n'osais même pas vérifier qu'on ne m'avait pas verrouillé au tombeau. À l'évidence, ces deux factotums faisaient partie du chapitre local du desséché. Après tout, c'était leur tâche d'entretenir la nécropole. Et peut-être marnaient-ils à la brune pour respecter un vœu d'obscurité. Le quiproquo aurait eu lieu de jour, j'aurais rapidement ricané de ma petite poussée de trouille. Mais serré dans le vestibule d'un caveau funéraire, encore environné par un remugle fade, tandis que dehors des chiens hurlaient à la mort, j'avais un peu perdu mon sens de l'humour. Je passais une bonne partie de la nuit aux aguets, à tendre l'oreille pour tenter de surprendre, en vain, autre chose que le tumulte venu du château. Difficile de fermer l'œil dans un état pareil. Ça ne me simplifia pas la tâche le lendemain. Ce fut tout juste si je pus dormir une petite heure ou deux dans le crépuscule du matin. Je fus réveillé en sursaut par un nouveau ourvari, mais celui-là était tout à la fois moins fort et assez joyeux. Un ray de lumière dorée filtrait sur le seuil du tombeau. Assourdi par les murs du sépulcre, me parvenaient quelques appels de corps, des aboiements excités. Le tambourinement de sabots sur le pavé. Cette rumeur me mit aussitôt en alerte, et pourtant je ne me sentais pas vaillant. J'étais claqué, ankylosé d'avoir dormi sur un dallage glacé, avec l'estomac dans les talons, les yeux qui collaient et la goutte au nez. Comme je me redressais avec brusquerie, mon flanc droit se rappela fielleusement à mon bon souvenir. Je me précipitai malgré tout sur la porte en priant pour que le visiteur nocturne ne l'ait pas bouclée. Elle s'ouvrit sans problème. Et je fus d'abord ébloui par une matinée radieuse. La brise qui sifflait de curieuses orgues dans les tours et les clochetons de la citadelle avait dispersé les nuées. Les forêts et la nécropole de verre se recroquevillaient, un peu rechignées sous un azur lumineux. Dans cette belle éclaircie, le châtelet de la forteresse bruissait d'animation. Une compagnie d'une dizaine de cavaliers et de quelques chiens se rassemblaient au débouché du deuxième pont. Seuls trois de ces élégants étaient armés en guerre, probablement pour fournir une escorte. Les autres étaient équipés plus légèrement pour la chasse. Au milieu des houseaux boutonnés, des pourpoints de buffle et des gants de fauconnerie, j'entrevis des toilettes féminines. Aussi sec, j'en fus émoustillé. La chance me souriait. Je tenais peut-être l'occasion de me refaire. Oubliant fatigue, fringale et menus désagréments, je raflais besace, carquois et arbalète. Un instant plus tard, je me faufilais dehors, à l'abri d'un rideau de buis. À vol d'oiseau, mon affût se situait peut-être à 150 ou 200 toises de la sortie du château. Légèrement hors de portée. J'aurais donc besoin de me rapprocher, surtout si je n'avais droit qu'à un tir. Et au préalable, encore fallait-il que j'identifie ma cible. Une fois rassemblée, la troupe de chasseurs ne remonta pas vers moi. Elle obliqua sur une voie assez large qui, après avoir longé le gouffre, gravissait les coteaux nord de la vallée. J'attendis que les cavaliers aient disparu à un croisement de la nécropole, puis je filai pour couper à peu près le chemin qu'ils avaient pris, en empruntant des allées traversières. Je prenais soin de rester à l'abri des arbres et des monuments qui me dissimulaient des tours de guet. De temps en temps, il fallait malgré tout franchir une voie transversale qui descendait vers la rivière. L'escouade que je suivais ayant de l'avance, le risque demeurait négligeable. C'est du moins ce que je crus. Car soudain, alors que je traversais une de ces chaussées exposées, je découvris un cavalier qui franchissait un croisement 100 toises plus bas. Le gêneur avait l'air pressé. C'était probablement un retardataire. Mais dans ce cimetière désert, le moindre mouvement était repérable et je faillis bien être épinglé. Je me jetai dans la première cachette venue, une haie buissonneuse qui entourait une vieille tombe. Je payai aussitôt et assez cher mon droit d'asile. La charmille était formée de rosiers à moitié morts mais férocement endentés. Le chasseur disparut au coin d'une chapelle sans m'avoir vu. Ce fut néanmoins toute une affaire de m'extirper de mon refuge. J'avais été accroché passionnément par les épineux, comme s'il ne me restait pas assez d'échardes de ma dernière mésaventure. J'eus la plus grande peine à disputer ma casaque et mon sac aux griffes du fourré, en ayant l'impression d'être tombé au fond d'une boîte à hameçon. J'étais en train de décrocher les basques de mon manteau quand mon regard fut arrêté par un mot sur l'épitaphe voisine. Il me surprit assez pour que je suspende mon dépêtrement. Vaumacel ? Était-ce le nom de Vaumacel qui était incisé dans la stèle ? Je crus avoir la berlue. Alors je déchiffrai toute l'inscription, en partie usée par la fuite des ans. Ce que je découvris me plongea dans un abîme de perplexité. Sur le tombeau était gravé dans une graphie désuète « Si Gisira par Tréfet est Dan, chevalier de Vaumacel. » Aucun doute possible. Il s'agissait de Vaumacel, ou du moins d'un de ses aïeux, dont il avait même hérité le prénom. Curieuse coïncidence que je tombe sur l'ancêtre après que le rejeton m'avait échappé. Mais je n'avais pas le loisir d'épiloguer. Mes clients étaient à cheval et moi à pince, pas le temps de lambiner. En fait, ce bref interlude floral m'avait déjà retardé. La chasse se déplaçant avec animation, elle n'était pas difficile à suivre, même dans le dédale funéraire. Mais elle avait pris un peu d'avance et elle creusait doucement la distance. Selon toute évidence, la compagnie comptait s'éloigner du complexe funéraire pour lever du gibier. À moins de donner un coup de collier, je risquais de me retrouver hors jeu. Je me mis donc à trotter, et j'eus d'abord l'impression de tenir le rythme. Mais lorsque les cavaliers atteignirent la périphérie de la nécropole, les voix et les aboiements s'éloignèrent à nouveau. Ayant gagné les bois, ils étaient partis grand train et m'avaient sèchement semé. Le crottin me permit de ne pas lâcher leur piste. Ils avaient gagné la grande route pavée par laquelle j'étais arrivé, mais l'avaient empruntée dans l'autre direction, à travers les collines du coteau nord. On quittait le terrain que j'avais arpenté la veille. Ça ne me simplifiait pas la tâche. Cette portion de chemin perçait de grands bois assez sombres et humides, dans lesquelles je n'entendis bientôt plus que de vagues échos de la cavalcade. Je commençais à tirer la langue. Mon flanc était encore douloureux, je me rationnais depuis plusieurs jours, j'avais fait une petite nuit. J'étais loin d'être au mieux de ma forme, et la grimpette venait de me lessiver. L'excitation retombée, je craignis de ne pas avoir assez de jarrets pour rattraper les gentils seigneurs et les gracieuses dames. J'eus la tentation de me tenir en embuscade sur le bord de la route, afin de surprendre ma future conquête au retour. Seulement, le procédé ne présentait aucune sûreté. Si jamais les chasseurs étaient revenus par un autre chemin, mon arbalète et moi, on aurait eu l'air fin, planqués dans notre feuillis. Il n'y avait pas à tortiller. Si je voulais conserver toutes les chances d'en finir au plus tôt, il fallait rattraper l'escouade. Je devais donc crapahuter. J'eus l'impression que ça n'en finissait pas, cette course-poursuite. Je crachais mes poumons, je crevais d'envie de balancer mon baluchon dans les broussailles, et puis j'avais des crocs à dévorer un bœuf. Sensation familière. En fait, je renouais avec l'ordinaire du vieux soldat. Il serait excessif de prétendre que j'avais la nostalgie des marches forcées, mais l'habitude revenait avec la mauvaise humeur. Je les traquais des lieues durant, mes gentillâtres. Plus j'en bavais et plus je m'accrochais. Un vrai crampon. Ils allaient plus vite que moi, et alors, je serais plus têtu. On ne congédiait pas si facilement le double solde Benvenuto Gesufal. Autour de moi, la forêt changeait. Les grandes futaies noueuses et sombres faisaient place à des taillis denses mais peu élevés que baignait la lumière du soleil. En arrivant dans cette sylve moins haute, j'entendis plus clairement les échos des chasseurs. Ils devaient battre les broussailles pour lever du gibier et avaient donc ralenti leur allure. Cela me redonna du nerf et je cravachais de plus belle, tout en restant aux aguets. D'un instant à l'autre, je devais me tenir prêt à m'enfiler sous les frondaisons. Je restais également attentif à la moindre brise. Mes clients avaient des chiens. Or, mon sac sentait le lard et le fromage. J'avais tout intérêt à rester sous le vent si je ne voulais pas être traqué comme un faisan. À l'oreille, il devint évident que je regagnais du terrain. Je distinguais plus nettement les appels, quelques éclats de rire, le bourdonnement des conversations, un hennissement isolé. Pas un aboiement. Les limiers bien dressés restaient quoi en cherchant des voies animales. Quant à la piste que je suivais, moi, elle se faisait problématique. Une assez longue ligne droite me révéla que la route était vide, alors que j'entendais assez bien la compagnie. La chasse avait quitté l'avenue principale, sans doute en empruntant l'un des layons qui coupaient régulièrement la chaussée. Or, si les alliés ne poussaient pas très haut, ils étaient horriblement touffus. J'avais peut-être raté un croisement où les cavaliers s'étaient enfilés dans les fourrés. Ça n'allait pas être simple de les dénicher dans ce fouillis, et encore moins de trouver un angle de tir. Un signe dans le ciel me remit sur la bonne voie. Soudain, je vis s'élever un petit rapace au-dessus des arbres, quelques centaines de pas sur ma droite. L'épervier possédait une élégance folle et un plumage qu'on aurait cru dessiné au trait. Surtout, des jets de cuir attachés à ses pattes signalaient l'animal de fauconnerie. Il fit une embardée et s'abattit comme une pierre, disparaissant à ma vue. Presque aussitôt, j'entendis s'élever un concert d'exclamations joyeuses. Je tenais à nouveau ma cavalcade. Sitôt trouvé un sentier qui filait dans sa direction, je le remontais en tapinois. Et pourtant, loin de s'aplanir, mes difficultés prirent un tour nouveau. Les sentes se croisaient de loin en loin à angle plus ou moins droit, mais les taillis qu'elles traversaient étaient si serrés qu'il était impossible d'y voir à plus de 10 pas. Or, les chasseurs, toujours en quête de prise, bougeaient sans cesse. Quand j'eus atteint le chemin où le rapace s'était abattu, il n'y restait que des traces de chevaux. J'entendais toujours la compagnie, mais elle partait dans un sens, puis voltait dans un autre, suivant le caprice des chiens et celui du gibier à plumes. Je soupçonnais même la chasse de se scinder, et bien malin alors, qui aurait pu deviner quelle partie suivre. Parfois, je voyais à nouveau un émerillon, ou deux, planer au-dessus des feuillages, puis disparaître en un clin d'œil. Je voulus couper à travers la ramée en suivant une coulée de sangliers. Initiative mal avisée, qui m'empêtra dans un gaulis dense où s'accrochaient la gaine de l'épée et l'arc de l'arbalète. Je faillis m'égarer, et j'y perdis un temps précieux. De leur côté, les chasseurs avaient pris le large. Je fus à deux doigts de les perdre, et il me fallut près d'une heure pour les approcher à nouveau. Cette partie de cache-cache commençait à me taper sérieusement sur le système, quand soudain, tout au fond d'une percée, j'entrevis deux ou trois cavaliers. Ils passèrent rapidement, suivant une voie transversale, et disparurent en un instant. Mais cette fois, je chassais enfin à vue. Je ne répétais pas l'erreur de sortir des sentiers battus. Je tâchais plutôt de filer le long des layons parallèles à leur course. Le calcul fut payant. À un autre croisement, j'entrevis à nouveau quelques silhouettes équestres, à 150 pas peut-être. Je me trouvais désormais à bonne distance, mais je n'avais toujours aucune possibilité de tir. Je ne voyais que quelques individus mobiles que je ne parvenais pas à identifier. La plupart me paraissaient être des hommes. Bref, l'occasion se dérobait toujours. Continuant à filer mes fauconniers, je me fis même une jolie frayeur. Soudain, au coin d'un sentier, je tombai face à face avec l'un de leurs chiens d'arrêt. Une bonne bouille d'épagneul, aussi intelligent qu'un cabot peut l'être, qui eut l'air aussi surpris que moi par la rencontre. Il se trouvait à 10 pas peut-être, trop loin pour que je le muselle, et mon apparition le rendait visiblement perplexe. Je le vis gonfler la babine comme s'il allait aboyer. Mais heureusement pour moi, il était bien dressé et n'osa pas contrevenir à la consigne de silence. « Ferme ta grande gueule, corneau !» lui murmurai-je aimablement. « Et va voir ailleurs si j'y suis !» Il demeurait toutefois immobile et défiant, partagé entre le soupçon pour ce veneur inconnu et la convoitise pour le fumet de ma besace. Par chance, un chasseur se mit à crier non loin. « Va outre, Fretel ! Va outre, mon beau !» Et Fretel, perdant tout intérêt pour ma personne, repartit en quête d'oiseaux. À peine étais-je remis de cette émotion que, soudain, le sort parut me sourire. Les bosquets où nous jouions la cache-cache étaient faiblement vallonnés. Or, devant moi, presque dans l'enfilade du layon où je me faufilais, une butte herbeuse émergeait légèrement au-dessus des taillis. Les chasseurs ayant aperçu cet espace dégagé, ils y convergèrent. Un cavalier y surgit, puis deux. Ils appelèrent les autres. Quelques instants plus tard, toute la compagnie paradait à découvert, un peu au-dessus de ma position. À vol d'oiseau, 60 toises nous séparaient peut-être. Avec de la chance, je pouvais faire mouche. Je fis un pas de côté pour me mettre à couvert, tout en continuant à épier la bande par les trouées du feuillage. Tout ce beau monde avait l'air détendu et heureux, y compris les trois cerbères en armure. Les femmes étaient du nombre, l'une d'elles portant un tiercelet sur le poing. Malheureusement, je ne voyais les chasseresses que par intermittence. Elles étaient le centre de l'attention des hommes, qui, tout en bavardant, caracolaient plus ou moins autour d'elles. Ces pans de cour allaient me poser problème. Ils masquaient régulièrement les cibles, ne m'offrant que d'éphémères fenêtres de tir. Malgré tout, il était temps de préparer mon arme. Mettant le pied à l'étrier, j'accrochai le cric au câble de l'arbalète. Le crâne-quin bien huilé n'émit qu'un faible zonzonnement, tandis que je tournais la girelle. Tout en bandant l'arc de fer, je gardai un œil sur la compagnie noble qui venait d'applaudir la nouvelle prise d'un épervier. Toutefois, même une fois le carreau posé dans la rigole, impossible de tirer. Mon dilemme restait entier. L'ex-duchesse se trouvait assurément dans ma ligne de mire, mais laquelle était-ce? Selon toute probabilité, j'avais sous les yeux Odéarde de Maginois et sa bru, Azalaïs de Verre. Mes charmantes commanditaires ayant négligé de me décrire ma cible et qu'ayant ne l'ayant jamais rencontrée, j'ignorais à quoi elle ressemblait. Le paladin m'avait juste peint la dame de verre en des termes aussi recherchés qu'élogieux. En langage courant, Cela signifiait que l'Azalaïs m'avait tout l'air d'être une allumeuse joliment roulée. J'en déduisais donc que ma cliente d'âge mûr était la moins pimpante des deux oiselles. Malheureusement, vu de loin, la différence n'était pas criante. Les deux chasseresses avaient la taille agréable et des manières gracieuses. Les gentilshommes qui les entouraient leur témoignaient le même empressement. Comment les départager? Tirer à pile ou face? Y aller au culot, marcher au devant de la compagnie et me fendre d'une révérence en demandant si j'avais bien l'honneur de croiser son Altesse ducale Odéhard? Tout à fait farfelu et accessoirement suicidaire. Finalement, deux détails me tirèrent d'embarras. D'abord, les écuyères ne montaient pas de la même façon. L'une d'elles chevauchait en amazone, à la tchoudalienne, le genou passé sur l'arçon, tandis que l'autre était assise sur une sambue, les deux pieds posés sur une planchette contre le flanc du palefroy. Orchéan m'avait confié son étonnement de voir Azalaïs de Verre monter en amazone. Il m'avait aussi dit que le tiercelet avec lequel elle chassait était en fait dressé pour être offert à sa belle-mère. Et dans ma paire de dames, l'Amazone n'était pas celle qui portait le rapace. Les choses se mettaient en place. Odéhard ne pouvait être que la chasseresse à la sambue et à l'épervier. Je la mis en joue. Par malheur, il m'avait fallu de longs instants pour parvenir à cette conclusion. Les cavaliers restaient en mouvement. Plusieurs s'interposèrent entre moi et ma cible. Et puis soudain, toute la compagnie se remit en marche. Sans se presser, l'escouade redescendit sous le couvert des arbres. Ma cliente, bien entourée, se dérobait à ma visée. Et toute la société se rembucha à ma barbe en me laissant un point de vue imprenable sur la clairière désertée. Entre mes dents serrées, je lâchai une bordée pas très châtiée. Abaissant mon arme, je remis le trait au carquois, mais après une brève hésitation, je décidai de garder l'arc bandé. Pas très pratique. J'avais intérêt à ne pas empêtrer le câble ou la queue de détente dans une branche. Mais je gagnerais un temps précieux si se présentait une nouvelle fenêtre de tir. La chasse reprit de plus belle. Cette partie de cache-cache se prolongea, frustrante, exaspérante et dangereuse, car à force de rôder dans le sillage de la compagnie, je courais de plus en plus de risques d'être repéré. Ce qui m'alarma le plus cependant, fut de réaliser que les cavaliers revenaient sur leurs pas. Si Odéhard rentrait au château, combien de temps faudrait-il attendre une nouvelle opportunité? Je dus me réfréner pour ne pas commettre d'imprudence, mais j'enrageais de savoir ma cible si proche et si inaccessible. D'autant plus que la bande finit bel et bien par regagner la route de Verre et en prit la direction. Ce fut à ce moment, alors que je ne l'espérais plus, que se présenta une seconde ouverture. Les chasseurs avaient déjà rejoint la chaussée. Je les suivais de loin, légèrement en surplomb et toujours à l'intérieur des halliers. Mon sentier descendait jusqu'à la route pour la croiser de biais. La percée, fort étroite, ne me permettait d'apercevoir que quelques passants à la fois, de trois quarts d'eau. Odéhard ne se trouvait pas dans mon champ de vision, quand j'entendis plusieurs voix crier avec enthousiasme « Va, va, Fretel, mon beau !» À l'instinct, sans réfléchir, j'encochai un carreau sur l'arbalète. Un gros faisan prit son essor au-dessus des arbres. Au bas de mon sentier, les chasseurs firent encore quelques pas avant d'arrêter la marche des chevaux. Les cavaliers que j'avais entrevus disparurent derrière les frondaisons, suivis par quelques autres, dont l'écuyère à la sambue. Elle arrêta sa haquenée en suivant des yeux l'envol du gibier. 50 toises peut-être. C'était assez loin, mais aucun obstacle. Je la mis en joue. L'arbalète claqua au moment où elle lançait son tiercelet sous les encouragements de la compagnie. Ce fut un coup parfait. À 100 pas, le trait la traversa de part en part entre les omoplates. L'impact la souleva légèrement comme si elle voulait se lever, puis elle tomba sans proférer un son. Le plus drôle de l'affaire, c'était que personne dans son escorte ne la vit chuter. Ils avaient tous le nez dressé vers l'oiseau de proie. Inutile de dire que je décampais ventre à terre. J'étais à plus de 200 pas quand éclatèrent les cris d'effroi.